Des idées aujourd'hui, la question de la justice et celle du temps. Y a-t-il des vertus salvatrices à l'oubli ? On en parle avec notre invitée, l'avocate pénaliste Marie Dauzé. Elle est intervenue dans différentes affaires médiatiques ces dernières années, de l'affaire Tarnac à celle au procès des attentats de Karachi. Elle plaide aussi pour le retour en France des familles de djihadistes retenues en Syrie et défend aujourd'hui au procès des attentats de novembre 2015 l'un des accusés. Elle publie aujourd'hui un éloge de la prescription aux éditions de l'Observatoire. Alors que des voix s'élèvent pour demander l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, les livres de Vanessa Springora, comme celui de Camille Kouchner, ayant ramené ces questions sur le devant de la scène, elle pose la question de la prescription, de l'importance de cette mesure, de ce dispositif dans la justice française. La prescription d'un crime ne vise en aucun cas à le nier, rappelle-t-elle, mais à le déposer dans la sphère de l'oubli judiciaire, afin de l'arracher au cercle infernal de la vengeance et de la justice privée. On en parle ensemble jusqu'à 13h30. Bonjour Marie Dauzé.
Bonjour.
Un recours a été déposé devant la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, pour obliger la France à rapatrier ses ressortissants détenus en Syrie. On parle là des enfants et des femmes de djihadistes. Vous êtes justement, vous, de retour de Strasbourg, puisque vous êtes l'avocate d'une des familles requérantes. Pourquoi cette action devant la justice européenne ?
Parce qu'on a épuisé toutes les voies de recours en France et qu'il n'y a aucun moyen en France de faire condamner les autorités françaises pour leur refus de rapatrier ces enfants et leur mère. Donc on se retrouve aujourd'hui devant la Cour européenne des droits de l'homme en grande chambre. C'était une audience solennelle, importante. Ça sera une décision historique. Est-ce qu'on fait payer à des enfants innocents le choix de leurs parents ? C'est ça la question qui est posée. La France fait croire qu'elle ne peut pas les rapatrier alors qu'elle choisit les enfants qu'elle sauve. Et donc qu'elle choisit les enfants, qu'elle laisse périr dans ses camps. Triste pays que le nôtre. Donc c'est beaucoup d'honneur pour moi.
Si la France y refuse, c'est parce qu'elle estime aussi que ces femmes devraient être jugées là-bas, sur place. Si la France y refuse, c'est aussi que cette demande est difficile à entendre pour beaucoup de familles, de victimes, et plus largement pour l'opinion. Elles ont choisi de partir, qu'elles y restent. On peut entendre ça en sous-texte. Vous comprenez quand même ce ressenti ?
Alors, le ressenti, oui, mais d'abord, dans la première partie de votre question, non, la France ne pense pas une seconde que ces femmes puissent être jugées là-bas. Elle sait même que c'est impossible. Et elle finira bien par l'admettre. Elle triche sur ce point-là. Le nord-est syrien, ce n'est pas un État. Donc le nord-est syrien ne peut pas les juger. Seul un État peut juger les personnes. Et puis surtout, les Kurdes appellent la France à rapatrier ces femmes et ces enfants en disant on ne peut pas les juger, on ne veut pas les juger. Quant à l'Irak, fin de non-recevoir également. Donc la France sait pertinemment que ces femmes ne sont judiciarisées que dans un seul pays, le nôtre, et qu'elles ne peuvent être jugées que dans un seul pays, le nôtre. Sur le ressenti, évidemment, je le comprends. Évidemment, je le comprends. Mais je crois aussi que la force d'un État de droit, c'est de prendre une belle distance avec une certaine opinion publique. Vous savez, au tout début, moi, quand il y a 3 ans, je prenais parole sur ce sujet, une parole publique, on avait plusieurs menaces au cabinet. Et puis, 3 ans plus tard, j'ai plutôt 10 ou 15 demandes de stage, parce que l'opinion publique, elle n'est pas figée dans un sondage. Elle évolue aussi. Et quand on fait œuvre de pédagogie, elle comprend. Et peut-être que beaucoup de Français comprennent mal qu'on fasse payer à des gamins de moins de 6 ans innocents la faute de leurs parents.
Voilà, d'où l'importance du temps aussi, peut-être du temps qui passe, et avec de la réflexion d'un sujet qui peut être plus mûr au fil du temps qui passe, et des discussions qui ont pu avoir lieu sur ce sujet. Rappelons que c'est donc à partir de 2019 que vous avez commencé à porter cette requête avec Maître Henri Leclerc. Cet appel pour le retour, c'est une course contre la montre ?
Oui, ça l'est, parce qu'on arrive à 3 hivers pour certains enfants, 4 pour d'autres. Et que petit à petit, ces enfants vont de plus en plus mal. Et qu'au tout départ, ils sortaient déjà de conditions terribles de vie, ou plutôt de survie en zone de guerre. Et que désormais, dans ces camps, je rappelle que 62 enfants sont décédés, tant dans le camp d'Alol que le camp de Roche. Donc oui, c'est une course contre la montre. Et la justice est trop lente. Elle est beaucoup trop lente. Même la justice européenne. Peut-être qu'on aura une réponse dans des mois. Donc on sait déjà probablement qu'il y aura encore un 3e et 4e hiver. Moins 12 et plus 46 l'été, entouré de champs de pétrole. Les poumons des enfants sont dans un état lamentable.
Mais on sait que le temps de la justice n'est pas toujours celui lui de la réalité. Et on entend déjà à travers cette question du retour des enfants et des femmes de djihadistes de Syrie en France, de ce rapatriement, des temporalités qui s'affrontent, qui entrent en conflit. Vous êtes en parallèle une des nombreux avocats des 14 accusés du V13. C'est un des convoyeurs que vous défendez là. C'est l'écrivain Emmanuel Carrère qui suit les audiences pour l'Obs de ce procès du vendredi 13 novembre 2015 qui parle de V13 et qui nous dit que c'est ainsi que les magistrats, les avocats, les journalistes appellent ce monstrueux procès. Alors on imagine qu'en étant avocate dans ce procès, vous n'allez pas pouvoir en parler. Mais pour comprendre, quel sens vous donnez-vous à ce procès hors norme à ce moment-là de notre vie en 2021, ce procès, qu'est-ce qu'il peut apporter ?
Un crime exceptionnel, procès exceptionnel. Donc c'est compliqué d'essayer toujours d'avoir en tête que ce procès est le procès d'accusés qui doivent répondre de leurs actes parce qu'il y a des victimes, parce qu'elles ont besoin de parler, parce que le procès est là aussi pour ça. Mais il ne faut pas oublier malgré tout qu'un procès et le procès d'hommes accusés de crimes ou de délits connexes ou de délits tout court, et que l'objectif, c'est de vérifier ou d'établir qu'ils ont commis ou pas les faits qu'on leur reproche. Là, il est vrai que, pour l'instant, tout est centré sur ce qu'ont vécu, les drames vécus par les victimes et la partie civile. C'est incroyable de se dire que les accusés, sur le fond, vont avoir la parole avec précision dans 2, 3 ou 4 mois. Mais je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance en ce procès. J'ai confiance aux magistrats qui le mènent. Je crois que tout est très, très compliqué. Et puis qu'on découvre aussi tout ça. Hein. Notre histoire judiciaire, elle n'a jamais été confrontée à de tels actes. Donc elle doit, elle aussi, improviser. On l'a vu dans le procès Charlie Hebdo, eh bien, ça se poursuit. Et souvent, dans la question philosophique, je me dis, mais est-ce qu'on pourra un jour avoir un attentat sans procès ? Est-ce qu'on supportera un attentat qui ne serait pas judiciarisé ? Je pensais, là, par exemple, au procès Mera. J'ai entendu, et notamment certains chroniqueurs judiciaires hein, de France Culture, dire, mais quelque part, si on avait pu interpeller ou si on avait pu faire comparaître vivant l'auteur, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le frère dans ce box. Bon, la question est là. On a parfois l'impression que ces procès sont vraiment faits pour donner la parole aux victimes. Et peut-être qu'elles investissent.
Bah, elles sont aussi faites pour trouver les complicités.
Évidemment, mais là, vous voyez, le premier temps du procès, qui est un temps extrêmement long, c'est normal pour la parole des victimes. Et au bout du compte, elles auront pris une place immense, mais c'est normal. Elles sont nombreuses, elles ont des choses à dire, elles ont des choses à comprendre. C'est tout ça qui est compliqué. C'est un équilibre vraiment très compliqué à trouver.
À travers le procès, il y a aussi une reconstitution des faits et des responsabilités. Et c'est ce qui va se jouer dans ce procès du vendredi 13 novembre 2015. Alors ce procès, il va être filmé parce que c'est un procès historique, filmé pour l'histoire. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a relancé la discussion sur l'enregistrement filmé des procès. Des audiences plus classiques, plus traditionnelles, c'est évidemment différent de ce grand procès historique qui se tient actuellement, avec la possibilité de les voir diffusés à la télévision et peut-être aussi une visée pédagogique à cela, mieux comprendre le fonctionnement de la justice, hein, mieux comprendre comment ça se passe. Vous vous êtes prononcé à ce moment-là contre la vidéo, et ça nous ramène toujours à cette question de la mémoire et de l'oubli. C'est à ce titre-là, hein, cet indispensable oubli judiciaire, que vous vous étiez opposé à la généralisation des procès filmés pour être diffusés à la télé. Pourquoi ? En quoi ça empêche ? Ça veut dire que ça peut ressortir à tout moment ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va nécessairement aller au-delà de l'enceinte judiciaire. Quelqu'un va avoir rendez-vous avec son procès, et finalement, tout un tas de téléspectateurs aussi. Il y a quelque chose de la justice spectacle qui me gêne là, en fait. Mais j'entends bien qu'Éric Dupond-Moretti nous explique que toutes les garanties seront prises pour... Moi, je pense une chose. Il faut qu'on apprenne aux citoyens et aux plus jeunes ce qu'est la justice. Parce qu'on se trompe sur le dessein judiciaire. On se trompe sur l'objectif d'une audience. Mais pas comme ça. pas en amenant les procès dans un écran de télévision, dans un foyer, sans avoir forcément les codes. Il faut qu'on emmène les collégiens, les lycéens, dans les salles d'audience, avec des professeurs, mais aussi avec des avocats, des procureurs. Il faut que les magistrats aillent dans les écoles, il faut que les avocats aillent dans les écoles. Qu'effectivement, on ait... qu'on comprenne très tôt et très vite ce que peut et ce que ne peut pas la justice. Et je suis vraiment pas persuadée qu'on va réussir à le comprendre en restant dans son fauteuil et en assistant à des audiences un peu quelque part. On n'y peut rien, c'est comme ça. On assisterait à un spectacle. Donc j'ai peur de cela. Et puis c'est vrai que j'ai peur de la résonance que pourrait avoir un procès judiciaire pour celui qui comparaît. C'est un instant d'une vie. Alors bien sûr que le procès est public et qu'il y a du public dans les salles d'audience. Mais c'est pas tout à fait la même chose il est diffusé devant des millions de téléspectateurs. C'est pas du tout la même chose.
Il sera pas forcément diffusé en direct, hein.
Non, mais d'abord, bon, je suis en train de regarder un peu ce qui est en train de d'être fait sur cette réforme. Pour l'instant, je trouve que c'est pas très clair, hein. On verra. Si cela aboutit. Mais très sincèrement, est-ce que la justice manque de moyens? Ça, c'est une évidence. Elle est d'une lenteur qui heurte et les parties civiles et les mises en examen, qui est préjudiciable à tous les justiciables. Elle a besoin de moyens. Est-ce que c'est une priorité de mettre des caméras là, dans des salles d'audience? Quant au procès de Nicolas Sarkozy, consacré à des écoutes, on n'a même pas réussi à en écouter une seule parce qu'il y avait un problème informatique qui fait que c'était pas possible. On en est vraiment à investir de l'argent dans le milieu judiciaire pour mettre des caméras et filmer les audiences. Est-ce que c'est une priorité? Je suis pas sûre. Demander aux juges d'application des peines qui croulent sous les dossiers, je crois vraiment qu'ils n'ont pas forcément besoin de ça. Je crois que c'était pas une priorité.
Alors c'est justement, Marie Dosé, parce que la justice est lente, que la preuve est souvent difficile dans ce type de crime sexuel à rapporter, que la parole est compliquée à libérer, que certaines associations demandent aujourd'hui la suppression pure et simple de la prescription, notamment pour les crimes sexuels commis sur mineurs. La prescription est devenue l'unique ennemi à abattre, écrivez-vous. Beaucoup pensent qu'elle seule empêche de poursuivre l'auteur présumé d'un crime, alors que le temps de la preuve n'est pas non plus éternel. Pourquoi cette course, d'après vous, à l'imprescriptibilité, cette ruée sur la prescription ces dernières années? Est-ce que déjà vous la comprenez, avant de la discuter?
Peut-être parce qu'on est beaucoup plus facilement dans l'émotion que dans la raison. Et que l'émotion est, et que quelque part, vous savez, la prescription, c'est comme la présomption d'innocence, c'est contre nature. On a vite fait de dire prescription égale impunité et quelqu'un qui est menotté est forcément coupable. C'est d'abord le réflexe que l'on a. Première remarque tout de même, de réforme en réforme et à force de réformer les réformes, plus grand chose ne pourra être prescrit à l'échelle d'une vie. À l'échelle d'une vie. Entre l'allongement des délais de prescription, le report du point de départ, la prescription glissante, et très franchement, en matière de crimes sexuels sur mineurs en tout cas, le droit applicable aujourd'hui fait que je ne vois pas très bien comment on pourra un jour se retrouver devant un crime prescrit. Et je pense que ça risque au contraire d'être difficilement vécu par certaines parties civiles, parce qu'on va multiplier, en tout cas seront multipliées, les ordonnances de non-lieu, les classements sans suite et les acquittements ou les relaxes, faute de preuves. C'est ce que j'écris. La preuve, elle, n'est pas éternelle.
Et... Vous étiez opposé à ça, au fait de repousser, de faire commencer le point de départ de la prescription à la majorité pour ceux qui ont été victimes de ces faits lorsqu'ils étaient mineurs, le fait de faire passer la prescription de 10 à 20 ans, ça, ces réformes-là, avant même d'engager la discussion sur la suppression, vous y êtes pas vraiment favorable?
Ah non, mais moi j'y suis totalement favorable. J'étais totalement favorable au doublement de la prescription de 10 à 20, de 3 à 6, au fait que, évidemment, pour un mineur, le point de départ de la prescription doit commencer quand il a 18 ans. Enfin, un enfant ne peut pas déposer plainte, donc c'est important que ça commence à 18 ans. Je pense aussi qu'il fallait prendre en considération la spécificité de certains crimes, qui fait que quand on est victime à 4, 5 ou 6 ans d'une agression sexuelle ou d'un viol, il peut y avoir un refoulement. Là, ce que je dénonce, c'est l'excès. C'est l'excès et c'est même finalement un discours ou presque une idéologie qui revient malgré elle à une escroquerie, puisque quand on nous dit aujourd'hui, quand le législateur nous explique qu'il faut réformer, parce que vous vous rendez compte, vous l'avez cité tout à l'heure, les crimes dont a été victime Vanessa Springer sont prescrits, c'est une escroquerie. Parce que, à l'aune du droit existant, du droit applicable, il ne le serait pas. On confond deux choses, la prescription et la non-rétroactivité de la loi pénale. Si Vanessa Springora, à l'âge qu'elle avait aujourd'hui, était victime des agissements de cet homme, elle pourrait déposer plainte jusqu'à ses 48 ans. Lorsqu'elle dénonce les faits aujourd'hui, elle a moins de 48 ans. Et évidemment, aujourd'hui aussi, ce qui lui a été fait s'appelle un viol. Consentement ou pas consentement, ça aussi c'est un autre sujet, mais on n'a pas besoin de savoir dans quel état était la victime, si elle a soi-disant consenti, alors qu'évidemment il n'y a jamais consentement quand on est majeur ou quand on a moins de 15 ans. Tout ça a été réglé par le droit. Donc en fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en train de se scandaliser de ce qu'on a déjà réparé, de ce qu'on a déjà réformé. Et donc on est dans une surenchère pour probablement contenter une part de l'opinion publique qu'on laisse donc dans l'ignorance de ce qui a déjà été fait.
Alors, vous étiez plutôt favorable, donc vous êtes favorable même carrément à l'allongement du temps où l'action est possible. Vous mettez néanmoins en garde contre les dérives, ce toujours plus qui est à l'œuvre aujourd'hui. On peut évoquer quand même des cas plus particuliers, notamment celui de l'amnésie traumatique. C'est une femme très engagée dans la lutte contre les violences sexuelles, favorable à un durcissement de la loi, notamment contre les pédocriminels. On va écouter les mots de la psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, Muriel Salmona. Elle demande, elle, donc une suppression de la prescription pour les crimes sexuels sur mineurs.
On veut qu'il y ait une imprescriptibilité des crimes sexuels et des délits sexuels sur les enfants. Et on veut aussi qu'il y ait une levée de prescription en cas de crime en série et en situation d'amnésie traumatique. C'est-à-dire que tant que les victimes ne peuvent pas porter plainte du fait de symptômes psychotraumatiques comme l'amnésie traumatique, il doit y avoir une levée de prescription pour que la justice puisse s'exercer et qu'il y ait effectivement des procédures judiciaires.
Qu'est-ce que c'est l'amnésie traumatique ? Est-ce que c'est un cas particulier, selon vous, à prendre en compte ? Est-ce que ça expliquerait qu'on devrait peut-être faire plus au cas par cas ?
Moi, je ne dis pas que l'amnésie traumatique ou la mémoire traumatique n'existe pas. Ce que je dis, c'est que la pertinence scientifique de ce phénomène est loin d'être avérée. Et que certains neurologues, de renom d'ailleurs, je les cite dans mon livre, restent très circonspects sur cette notion. Donc, ce qu'elle veut voir advenir, c'est le début de l'arbitraire. Je suis désolée, mais les théoriciens de l'amnésie traumatique opèrent parfois une confusion entre le concept de refoulement et d'autres phénomènes de mémoire. J'ai une difficulté avec ce discours. D'abord parce que on va quand même pas aujourd'hui missionner des experts pour qu'ils nous donnent le point de départ d'un délai de prescription en fonction de la réalité ou non d'un phénomène d'amnésie traumatique dont aurait souffert la victime. Enfin, est-ce qu'on se rend compte là de l'arbitraire dans lequel on est en train de sombrer ? Et puis j'ai un autre problème, et je l'évoque dans mon livre, s'agissant du discours de Muriel Salmona, mais je ne suis pas la seule. Il y a une tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde de professionnels de santé, de magistrats, d'avocats, de professionnels de l'enfance aussi, s'agissant de la diffusion d'un clip sur l'amnésie traumatique, très inquiétant de Muriel Salmona, glaçant même. Glaçant parce qu'en réalité, il est dissuasif pour tous ceux qui veulent parler et libérer leur parole. Puisque ce qu'elle explique, c'est que pour toute victime d'agression sexuelle ou d'inceste, ils ne s'en sortiront jamais. Ils vont souffrir toute leur vie. Personne ne les croira, que ce soit leur famille, que ce soit l'institution, que ce soit la justice, et qu'en réalité, jusqu'à la fin de leur vie, ce sera que souffrance, et etc. etc. Mais quel est l'intérêt, quel est le dessein de quelqu'un qui souhaite enfermer une victime dans ce qu'elle a vécu? J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec le statut victimaire, avec l'identité victimaire. Je pense au contraire que, évidemment, qu'il faut libérer une parole, évidemment qu'il faut que ça sorte, et qu'une fois que ça sorte, il faut non pas alimenter ce qu'il s'est passé, mais apprendre à libérer cette parole pour devenir autre, ou en tout cas en faire quelque chose, l'arranger. L'oubli, ça n'existe pas. L'oubli judiciaire, c'est pas le crime n'a pas existé.
Alors certains vous diront que de toute façon, ce n'est pas elle qui cherche à enfermer des enfants ou des adultes dans ce statut de victime, mais c'est la tâche, les violences subies, le traumatisme qui de toute façon est enfermant pour ces personnes-là. Et la deuxième chose, c'est comment appeler à libérer une parole si au moment où cette parole pourrait se libérer, la prescription s'applique et les personnes présumées innocentes, présumées coupables, en tout cas responsables éventuellement de ces violences, si elles ont réellement eu lieu, ne peuvent pas être poursuivies.
Mais ce n'est pas parce que celui qui vous a fait du mal ne peut plus être poursuivi que la parole ne peut pas se libérer. Et ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent plus être poursuivies qu'on ne pourra pas voir être réparées. Si vous faites dépendre la guérison de la poursuite de celui qui vous a agressé, vous vous trompez. Enfin, moi, j'ai, là encore, ce n'est pas parce que la personne qui vous a fait du mal n'a pas été condamnée à 5, 10, 15 ans d'emprisonnement que vous allez être empêché d'aller mieux. C'est ça la difficulté. En fait, on vous fait croire que dans le processus des guérisons, il faut nécessairement un procès, une condamnation, un emprisonnement. Mais je vais vous dire, de toute façon, ça ne suffit jamais. Ce que j'écris, c'est qu'il faut délester le procès de la réparation. Une victime ne se répare pas dans une enceinte judiciaire. Le procès n'a pas de valeur thérapeutique ou cathartique, même si il y a des miracles d'audience et que cela arrive. Mais quand les victimes viennent à mon cabinet parce que j'en défends, et beaucoup, je leur dis, écoutez, voilà, vous m'avez donné cette histoire, on va la judiciariser, et vous allez vous libérer ailleurs. Vous allez vous réparer ailleurs. Vous allez vous faire du bien ailleurs. C'est pas la procédure judiciaire qui va vous aider à aller mieux. Il faut voir des psychologues. Pour tous ceux qui ne peuvent plus parler, et encore une fois, il n'y en aura plus, parce qu'on est dans une quasi-imprescriptibilité. Mais pour tous ceux sous l'aune de la loi précédente qui ne peuvent pas judiciariser leur parole, il faut développer d'autres lieux de recueil de la parole. Je parle de la justice restaurative, par exemple. C'est important. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut museler les victimes qui ne peuvent pas déposer plainte. Je dis qu'il faut aller ailleurs que soit dans la parole publique, parce que là aussi, c'est marquer au fer rouge quelqu'un publiquement de ce qui lui est arrivé, et je ne pense pas que c'est comme ça qu'elle ira mieux, soit se fracasser aux portes d'audience qui, de toute façon, vont nécessairement conduire à des relaxes ou des acquittements. Il y a des mécanismes à travailler en France, et notamment sur la justice restaurative.
Voilà, ça vous le dites, hein, il y a beaucoup d'enquêtes sans aucune perspective de résolution. Il ne faut pas tout attendre aussi de la justice et du temps judiciaire. Juste pour rappeler quand même, pour ceux qui nous écoutent, que seuls les crimes contre l'humanité aujourd'hui sont imprescriptibles. Hein. Et selon vous, d'ailleurs, Marie Dosé, ça doit rester comme ça. On ne peut pas considérer que la prescription aurait du sens si elle devenait pour un crime, mais pas pour un autre. Donc si elle devenait, en fait, l'exception, il faut qu'elle reste aussi la règle et qu'on comprenne, en fait, à qui et pourquoi et dans quel cas elle mérite aujourd'hui de s'appliquer. Pour l'instant, donc, le seul crime qui est imprescriptible, ce sont les crimes contre l'humanité. Et vous soulignez ce point-là, vous insistez sur ce point-là. Vous dites aussi, on l'entend à travers ce que vous venez d'évoquer, qu'il y a un équilibre qui est difficile à atteindre, mais qui est essentiel entre la mémoire et l'oubli. Vous l'écrivez aussi entre la sanction et le pardon, et que la prescription, justement, est un instrument de dosage assez délicat entre ces deux points-là. En quoi ?
D'abord, juste une chose quand même. Il y a une phrase très très importante d'une victime d'un acte de terrorisme qui avait dit « vous n'aurez pas ma haine ». Et je crois que c'est Boris Cyrulnik qui avait poursuivi cette phrase en disant « vous n'aurez pas mon pardon non plus ». Il y a une chose qui est très importante. Le pardon n'est pas nécessaire pour aller mieux, pour tourner une page. Je pense que ce qu'il faut, c'est réussir à casser le lien entre le mal qui vous a été fait et vous, c'est-à-dire entre le bourreau et la victime. Ça, c'est important. Et que vouloir absolument le poursuivre, c'est aussi perpétuer ce lien-là. D'accord ? La haine, c'est très aliénant. C'est parfois plus aliénant que l'amour. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de pardon ou de pardonner ce qui nous a été fait pour aller mieux. Là-dessus, c'est une évidence. Ensuite, encore une fois, sur ce dosage, je voudrais vraiment qu'on comprenne. Un crime prescrit, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Ça veut dire qu'on ne peut plus le poursuivre. C'est très important. Et je l'explique aux victimes. Ça n'est pas parce qu'on dit le crime est prescrit qu'on dit ça n'existe pas. On dit juste la société ne peut plus le poursuivre puisqu'on n'a plus les preuves pour le faire.
Vous allez même plus loin puisque vous dites la prescription est aussi faite pour les victimes.
Exactement.
C'est difficile à entendre.
Je vais vous dire. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était il y a 10 ou 15 ans. Une femme arrive à mon cabinet et me dit voilà, j'ai été victime de telle infraction. Je sais qui a fait ça, c'est celui-ci. C'est cet homme-là. Et je voulais savoir quand est-ce qu'il y a prescription. Je calcule et je lui donne la date. Et je lui dis, donc madame, voyez, vous avez jusqu'à cette date-là pour déposer plainte. Et elle me dit, mais pas du tout, maître. Ce que vous me confirmez, c'est qu'à partir de cette date-là, je vais pouvoir parler sans que la justice puisse mettre son nez dans ce que j'ai à dire. C'est ça ce qu'elle voulait. Il faut faire attention. Il y a aussi des victimes qui ont besoin de la prescription pour libérer leur parole. Parce que ce qu'elles ne veulent pas, c'est justement risquer une judiciarisation, une mise en détention provisoire, une mise en examen, parce que une mère en souffrirait trop, parce que là, leurs épaules ne seront pas assez solides. Ça existe aussi. Il faut faire attention.
Vous dites qu'il y a un risque aussi dans cette dictature de l'émotion, et ce sont vos mots encore, dans laquelle nous sommes entrés, c'est qu'il y ait à jamais des victimes et à jamais des coupables. On peut revenir sur ces affaires de crimes sexuels évoquées, jugées ou pas. Il y en a eu plusieurs, des affaires. On a parlé du cas de Camille Kouchner, de son beau-père, de Vanessa Springora. Elles ont toutes les deux témoigné dans des livres. Il y a eu, bien sûr, l'affaire Bertrand Cantat et aussi l'affaire Polanski, qui ne cesse de revenir dans l'actualité, qui ne s'éteint jamais. Alors là, pour le coup, comme si la prescription n'avait pas agi. On y revient en son, le jour de la soirée des Césars.
Il faut qu'on règle un dossier. Pour être totalement tranquille. Si, sinon, il y a un moment où on va avoir un souci. Dans la cérémonie. Il y a 12 moments où on va avoir un souci. Non, je pose la question. Il faut qu'on règle le problème, sinon ça va nous pourrir la soirée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec un gros? Hein? Non, alors ne faites pas comme lui, faites pas les innocents, vous savez très bien de qui je parle.
Vive la pédophilie! Bravo la pédophilie! Bravo pour les violeurs! Pas d'honneur!
Florence Foresti qui animait cette soirée des Césars 2020, si ma mémoire est bonne. On l'entend dire, il faut qu'on en parle, sinon on va avoir un souci. Une dizaine de nominations pour Roman Polanski et pour son film J'accuse. Avec 113 autres avocates pénalistes, Marie Dosé, vous étiez l'une des signataires de la tribune publiée par Le Monde cette année-là, après l'attribution du César de la meilleure réalisation à Roman Polanski, alors que de nouvelles accusations avaient été portées contre lui par voie de presse. C'est une tribune que vous aviez collectivement intitulée « Une inquiétante présomption de culpabilité s'invite trop souvent en matière d'infractions sexuelles ». La tribune a été perçue assez rudement par notamment des associations de féministes et des féministes qui estimaient que c'était une nouvelle violence faite aux femmes. Vous avez parlé ensemble d'un rappel de principe. Quel était le glissement qui était en train de se jouer et que vous souhaitiez, non pas dénoncer, mais en tout cas mettre à jour à ce moment-là?
D'abord, ce n'était pas du tout une tribune en défense de Polanski, absolument pas. En réécoutant là ce son, il y a quelque chose quand même de très gênant dans tout ça. Moi, je ne sais pas où ranger dans ma pensée ce type de séquence, voyez-vous, mais je trouve ça inquiétant. Ce qu'on a voulu dire, nous sommes 114 femmes pénalistes, féministes, qui avons évolué toutes dans un milieu qui n'est absolument pas épargné par la misogynie, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les ténors qui nous entourent, et nous défendons tant des victimes que des mises en examen ou des prévenus, notamment dans le cadre d'agressions sexuelles. Et nous avons voulu, là, poser des principes. Non, c'est pas vrai. En matière de justice pénale, il n'y a pas une présomption d'innocence qui ferait que ceux qui sont accusés sont nécessairement relaxés ou acquittés. Non, c'est pas vrai. Nous sommes des deux côtés de la barre et nous savons combien il est de plus en plus difficile de faire respecter la présomption d'innocence dans ces affaires-là. Parce que, eh bien, voilà, les choses ont changé et qu'il suffit pas de dire « c'est une menteuse » pour réussir à être relaxé. Tant mieux, tant pis. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on a une fausse image de la justice et qu'il était temps, à un moment donné, que des femmes pénalistes rappellent les principes. Je crois aussi qu'il ne faut pas laisser croire à la victime ou aux victimes qu'elles iront mieux en déplaçant leurs paroles dans la sphère publique. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, là encore, je le disais tout à l'heure, c'est les marquer au fer rouge, en faire une identité de ce qui leur a été fait. Donc voilà, c'était tout un équilibre entre la présomption d'innocence, la sphère publique de la libération de la parole, quelque chose qui était quand même très gênant, et en même temps, la nécessité de prendre en considération la partie civile, les victimes et leurs droits dans le cas de la justice pénale. On a juste voulu, à un moment donné, rappeler les grands principes. Qui sont ceux d'un état de droit.
Et ce que vous dites, c'est que dans un temps comme celui-là, il n'y a pas de place pour le contradictoire aussi. Il n'y a pas de place pour un débat qui soit équilibré là où d'autres répondent. Oui, mais le problème, c'est que la justice ne nous entend pas ou ne nous a pas entendus, ne nous croit pas. C'est aussi cela.
Mais c'est toute la difficulté. La justice ne nous croit pas, donc on dépose pas plainte. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs dans l'affaire Adèle Haenel. Hein. Sa libération de la parole est d'abord passée par le média, et ensuite une enquête a été ouverte, et ensuite elle a été entendue, et là elle a accepté de déposer plainte. On n'est pas sur un problème de prescription. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut restaurer la confiance entre la justice et le justiciable, entre la justice et la victime. Mais si toutes les victimes disent, de toute façon c'est une justice patriarcale, donc on ne déposera pas plainte, et on ira publiquement dénoncer celui qui nous a fait du mal, parce que là au moins, bah là au moins quoi ? C'est fini. Là c'est la vengeance, là c'est l'arbitraire, et là, pardon, ça ne peut pas être accepté et acceptable. On ne peut pas évoluer dans une société comme celle-là.
Plaidoyer pour une justice en démocratie, éloge de la prescription, éloge de l'oubli aussi, Marie Dosé. Votre livre vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cette émission a été programmée par Lucas Bretonnier, Henri Leblanc et Oriane Delacroix, préparée par Laura Dutèche-Pérez, avec Marie Fraboulet et avec Ozana Chauvin. Merci beaucoup à eux. Réalisation Thomas Beau aujourd'hui et à la technique Arthur Dumont. Merci, vous pouvez retrouver toutes vos grandes tables culture et idées sur le fil de nos podcasts à partir de la toute nouvelle et toute belle appli Radio France. Demain, c'est une grande table critique avec Lucille Comeau qui vous attend.